Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon-Lecoeur, Cédric Fuentes, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, à la prise de son, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Arjuna Andrade.
Dernier moment de notre série consacrée au prix du gratuit. Après avoir examiné les différentes facettes de la gratuité, tour à tour instrument de libération et de domination, nous envisageons aujourd'hui le gratuit comme un véritable projet de société. Ainsi, pour nos invités, la gratuité peut être pensée non seulement comme un outil de justice sociale, mais aussi comme un dispositif de changement du monde. Face à l'imminence de la catastrophe climatique causée en grande partie par notre modèle économique, la gratuité constituerait donc un remède face aux errements du capitalisme et nous propose un nouveau pacte social, passé de la jouissance d'avoir au bonheur d'être. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Avec nous aujourd'hui pour parler de l'extension du domaine du gratuit, nous recevons Paul Ariès, politologue, directeur de l'Observatoire international de la gratuité et auteur notamment de « Gratuité versus capitalisme » paru chez Larousse. Avec nous également Paul Jorion, anthropologue, professeur associé à l'Université catholique de Lille et auteur de l'ouvrage « Vers un nouveau monde » publié aux éditions Renaissance du Livre.
Nous avions entendu parler de monde disparu tout entier, d'empires coulés à pic avec tous leurs hommes et tous leurs engins, descendus au fond inexplorable des siècles avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées, avec leurs grammaires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques. Nous savions bien que toute la terre apparente est faite de cendres, que la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions à travers l'épaisseur de l'histoire les fantômes d'immenses navires qui furent chargés de richesses et d'esprit. Nous ne pouvions pas les compter. Mais ces naufrages, après tout, n'étaient pas notre affaire. Élam, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues et la ruine totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, Russie, ce seraient aussi de beaux noms. Lusitania aussi est un beau nom et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grande pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Les circonstances qui enverraient les œuvres de Keats et celles de Baudelaire rejoindre les œuvres de Ménandre ne sont plus du tout inconcevables. Elles sont dans tous les journaux.
Elles sont dans tous les journaux. Nous entendions une lecture de La crise de l'esprit de Paul Valéry par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Les civilisations sont donc, comme les hommes, mortelles. D'ailleurs, le GIEC nous le disait dans son dernier rapport, il nous reste 10 ans pour tout changer. Paul Ariès, cet impératif de transformation devrait passer, selon vous, par la gratuité?
Mais le poète Paul Valéry a raison. Toute civilisation est mortelle. Et la nôtre fondée sur la marchandisation de tout ce qui peut l'être, c'est-à-dire le ventre des femmes, le vivant, le climat, ne fait pas exception. Et tout le monde est d'accord pour dire que nous allons dans le mur. Mais il y a ceux qui pensent qu'il serait possible de sauter par-dessus le mur, avec par exemple la figure de l'anthropocène transhumaniste, l'idée d'adapter la planète ou d'adapter l'humanité, ce qui signifie encore plus de marchandisation. Et ceux qui pensent qu'il est nécessaire et possible de construire une issue à l'effondrement qui vient et que cette issue doit être cherchée du côté de la démarchandisation, c'est-à-dire de la défense et de l'extension de la sphère de la gratuité. Mais quand on parle de gratuité, il faut préciser immédiatement que c'est toujours une gratuité construite, et une gratuité construite dans tous les domaines, économiquement, sur le plan linguistique, sur le plan juridique, sur le plan social, culturel et politique.
C'est un véritable projet de civilisation qui vise à répondre notamment à ce contre-projet de civilisation, vous en parliez, de ceux qui sont les anthropocènes transhumanistes, mais aussi ceux qui sont les garants de cette humanité augmentée, qui veulent aller vers toujours plus de technologie, de science. Paul Jorion, est-ce que vous pensez vous aussi que le gratuit permet d'offrir un contre-modèle à cette espèce de mieux-disant perpétuel, au techno-progressisme, comme on pourrait l'appeler ?
Non, je vois pas ça, je vois pas d'opposition. En fait, je vois deux démarches, et à la fois la technologie, même la technologie un peu délirante comme on la voit maintenant, et la démonétisation, la démarchandisation, la suppression de l'argent en tant que tel. Je vois ça comme deux projets des Lumières. On peut retrouver ça, je dirais, chez les encyclopédistes, au moins en embryon, et ensuite chez les premiers socialistes anarchistes du début du 19e siècle. L'enthousiasme saint-simonien pour le génie humain de fabriquer des machines, notre problème, ce n'est pas les machines en tant que telles, c'est le fait que le bénéfice, les gains produits par les machines sont confisqués par les propriétaires des machines, et en particulier que la personne qui perd son travail, on la remet sur le marché de l'emploi, comme on dit. Il n'y a pas de bénéfice pour celui qui est déplacé, il y a simplement un bénéfice supplémentaire pour le propriétaire de la machine.
Ce que vous nous dites, Paul Ariès, c'est que cette marchandisation de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui nous apparaît comme une évidence, est en réalité une réalité construite, et donc elle est donc limitée dans le temps, et on peut donc en sortir, c'est ce que vous nous dites.
Du moins, c'est ce à quoi je rêve, et c'est ce que, tout simplement, l'histoire nous enseigne. C'est-à-dire qu'il y a un conflit entre deux plaques techniques, celle qui pousse à la marchandisation et celle qui pousse à la logique du don et du contre-don. Je dirais que la marchandisation, c'est une tragédie en trois actes, comme toute bonne tragédie. Je dirais le premier acte, c'est ce qu'on appelle le mouvement des enclosures, 15e, 16e siècle, qui correspond au moment où on a privatisé les biens communaux, où on a interdit, par exemple, l'ancien droit de glanage, la possibilité de ramasser le bois mort. Et je dirais que cette première phase, c'est celle de l'accumulation primitive, presque l'acte de naissance officiel du capitalisme. Et le deuxième grand moment, tragique là aussi, c'est à la fin du XXe siècle, tout simplement l'extension du champ de la propriété intellectuelle, avec les dizaines de milliers de brevets déposés sur le vivant, mais également des choses qui peuvent sembler plus ordinaires, c'est-à-dire la possibilité aujourd'hui de s'approprier des couleurs, pourvu qu'il ne s'agisse pas de couleurs primaires, voire de s'approprier des noms propres, comme par exemple des noms de grands cuisiniers et autres, et de prétendre pouvoir en récolter des royalties.
Ou même des phrases du jour le jour, on se rappelle de Disney qui a capturé la phrase Hakuna Matata, qui était pourtant une phrase en swahili qui appartenait à personne, si ce n'est les personnes qui parlent cette langue.
Oui, et puis je crois qu'on imagine très mal Nicolas Appert, qui est l'inventeur de la boîte de conserve, déposer un brevet. Pour lui, c'était un don qu'il faisait à l'humanité. On imagine mal Einstein déposer la théorie de la relativité. Et on voit en quoi l'air du temps a changé. Mais je crois qu'on est au bout d'un système qui est aujourd'hui totalement essoufflé, sauf effectivement à sombrer dans ces délires qui m'apparaissent non seulement funestes sur le plan écologique, mais funestes pour les 99% de la planète.
Mais alors ce qui est intéressant, c'est que ce que vous nous dites, c'est que le marché et la sphère marchande a commencé à grignoter de plus en plus des espaces qui ne l'étaient pas. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que cette gratuité a été construite, peut-être construite politiquement et socialement. On voit notamment comment l'école publique est devenue est une évidence de gratuité. Et donc on peut étendre cette même logique à d'autres sphères qui ont été grignotées par la sphère marchande.
Mais vous avez raison, et l'exemple de l'école publique est extraordinaire. Parce que, je dirais, globalement, ceux qui s'opposent aujourd'hui à la gratuité des transports en commun, de l'eau, de l'énergie alimentaire ou des cantines scolaires, utilisent les mêmes arguments que ceux qui, au 19e siècle, s'opposaient à la gratuité de l'école. Et puis, je crois que, moi, j'ai pas le fétichisme du vocabulaire. Si les gens n'aiment pas la notion de gratuité, qu'ils parlent, comme nos amis anglo-américains, de free, de liberté d'accès, qu'on parle de bien commun inconditionnel. Mais ce terme de gratuité, je dirais, je l'ai pas choisi. Il nous a été offert par l'histoire, et notamment par les luttes, par les mobilisations, pour étendre progressivement d'année de scolarité en année de scolarité ce qui nous semble aujourd'hui naturel, c'est-à-dire le fait que nos enfants aient la possibilité d'être éduqués gratuitement. Mais il va falloir à terme aller beaucoup plus loin. Malraux disait par exemple que la culture demain devrait être gratuite comme l'est aujourd'hui l'instruction.
Et ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, et là où on voit que c'est un véritable projet de société, c'est que vous nous dites qu'il faut aussi remettre en cause nos aspirations et nos attentes. Et on peut voir, et d'ailleurs vous dites assez justement que tout le monde dans le monde ne rêve pas de devenir milliardaire ou de vivre comme les 1% les plus riches. Et donc il faut peut-être se rapprocher de cette forme de bien vivre, de beau vivre, de buen vivir, comme vous nous dites dans votre ouvrage.
Mais je dirais ce glissement vers une civilisation de la gratuité est fondé à la fois sur une bonne nouvelle matérielle et sur une bonne nouvelle culturelle. Je dirais la bonne nouvelle économique, c'est déjà tout simplement ce que cesse de nous rappeler l'ONU. Il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans pour régler le problème de la faim dans le monde. Et l'ONU ajoute que si on mobilisait toujours pendant 25 ans 70 milliards de dollars, on réglerait le problème de la grande pauvreté. Alors que les auditeurs, je dirais, s'inquiètent ou au contraire s'en réjouissent, mais ces 30 ou ces 70 milliards, on ne les trouve pas. Mais le budget officiel de l'armement, c'est 1600 milliards
c'est
de dollars.
C'est donc une question de choix, une
c'est
question
donc
de
une
volonté
question de
politique.
Choix. La planète est déjà bien assez riche pour permettre à 8-9 milliards d'humains de vivre bien. Et vous avez raison, je dirais, ce passage, ce glissement vers une civilisation de la gratuité est fondé aussi sur le fait que les gens ordinaires, nous tous, nous n'aspirons pas à vivre comme les 1%. Rappelez-vous, il y a quelques années, je dirais la fameuse parabole de Jacques Séguéla, qui nous disait que si à 50 ans, on n'avait pas de Rolex, c'est qu'on avait raté sa vie. Je lui avais répondu à l'époque que j'avais presque 55 ans, maintenant j'ai un peu plus, mais que j'avais toujours pas de montre de luxe. Mais c'était pas d'abord parce que j'en avais pas les moyens financiers, c'est parce que j'en avais pas le désir. Et moi, je suis convaincu qu'effectivement, les peuples, eh bien, ils aspirent à vivre bien et non pas à copier, à imiter le mode de vie des puissants. Et c'est la raison pour laquelle la gratuité, c'est bon socialement, mais c'est aussi bon sur le plan écologique.
Paul Jorion, vous aussi, vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer. Vous nous dites que la science économique est fondée sur cette hypothèse de la non-satiété, cette idée selon laquelle si un bien était gratuit, tout le monde se ruerait dessus et en consommerait à l'infini. Or, vous nous dites que cette théorie n'est pas exacte.
Oui, c'est avec ça en science économique. C'est pour ça que je mets toujours des guillemets à science. Mais effectivement, la science économique, elle nous parle de l'univers marchand. Elle nous parle pas de la vie réelle des gens. Quand on fait effectivement la liste des besoins, des désirs des personnes, heureusement, tout n'a pas encore été marchandisé. Il y a une époque où on m'avait demandé, c'était les Nations Unies, c'était la FAO, m'avait demandé d'analyser l'économie d'un village. Je peux dire son nom, c'est au Bénin, c'est le village d'Ablékété, où j'ai d'excellents souvenirs. Et j'avais étudié la manière dont la vie économique fonctionnait. Et la première sphère, bien entendu, c'est la sphère de la redistribution. Quand on a fait la pêche, on s'agrange d'abord pour que tout le monde a mangé dans le village. Ensuite, il y a des dons, il y a de la réciprocité. On peut essayer d'obtenir une faveur d'un futur beau-père parce qu'on convoite sa fille, des choses de cet ordre-là. Et ce qui reste, c'est ce qu'on va vendre aux marchands qui sont là. Mais on s'assure d'abord de pouvoir revivre le jour suivant. On essaye de nous prétendre, on nous dit par exemple que ce qui est gratuit, il y a toujours un coût, qu'il y a toujours quelqu'un qui paye quelque part, etc. Il faut bien dire, ça c'est un discours politique, c'est un discours idéologique, ce n'est pas vrai par nécessité. La vie quotidienne des gens et dans les communautés, j'ai vu la même chose dans les communautés de pêcheurs en Bretagne, on s'arrange d'abord pour que tout le monde puisse manger dans la communauté avant qu'on aille vendre les choses. Bien entendu, on fait des choix. Si on a un poisson unique qu'on ne pourra pas vendre facilement, on va le mettre dans la sphère de la redistribution ou du don. Mais c'est une... Notre esprit a été déformé. La marchandisation a tellement avancé, la monétisation de tout, et ça continue. On peut parler de privatisation en ce moment, de choses qui sont véritablement du commun, des choses qui nous appartiennent à tous, comme des aéroports. On essaye de plus en plus un système économique qui a échoué, qui est mort de fait sur le terrain en 2008, continue d'essayer de marquer des points et dans une espèce lancée sur ça. Voilà. Sur sa lancée, il essaie encore de gagner quelques victoires. Heureusement, les gens se lèvent, les gens disent non, comme vous avez pu le voir pour Toulouse-Blagnac, et comme il y a une opposition qui est en train de s'organiser sur cette question des aéroports de Paris aussi, on est peut-être dans un point de basculement, de renversement, disant ça suffit, on a assez donné en termes d'argent, maintenant on va donner, on va revenir au don, à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'argent, qui n'a pas un coût qu'il faut nécessairement comptabiliser, sortir de cette logique et aller vers un monde sans argent. Quand Keynes définissait en 1936 qu'est-ce qui pourrait demain faire que les gens se réveillent en se disant nous sommes totalement soulagés, il disait le plein emploi, on sait qu'on ne peut plus le faire parce qu'heureusement la mécanisation fait que nous sommes libérés d'un certain nombre de choses, on ne peut plus viser ça, mais si on voulait que demain les gens se réveillent en se disant nous sommes libérés d'un fardeau abominable, si on supprimait l'argent, tout le monde se réveillerait beaucoup plus heureux demain.
Paul Ariès.
Paul Jorion a raison, c'est-à-dire qu'on nous dit que ce qui n'a pas de valeur monétaire n'aurait pas de valeur du tout, et c'est déjà faux sur le plan individuel. Ce qui nous est le plus cher, c'est l'amour, l'amitié, nos engagements, c'est-à-dire des choses qui justement sont gratuites. Et je mets au défi les adversaires de la gratuité, de dire qu'ils préfèrent partager leur intimité dans le cadre d'amour tarifé plutôt qu'avec une personne qui les a choisis et qu'ils ont choisi. Et je dirais que l'Observatoire international de la gratuité, en publiant le livre manifeste « Gratuité versus capitalisme », a montré que c'est faux aussi sur le plan collectif. Dire les choses les plus importantes, ce qui permet à la société de tenir debout, notamment ce qu'on appelle le care, le prendre soin, ça relève très largement, et bien tout simplement, d'activités gratuites.
Paul Jorion, on a souvent opposé la question du revenu universel à celle de la gratuité. Or, vous, ce que vous nous dites, c'est que la gratuité est beaucoup plus adaptée pour réussir à relever ces défis que nous pose le capitalisme, mais aussi pour une raison beaucoup plus simple, c'est que la gratuité est beaucoup, beaucoup moins chère que le revenu universel.
Oui, parce qu'en fait, heureusement, il y a déjà une base pour la gratuité. Il reste des choses d'un système de santé gratuit, même si, voilà, si on a renié là-dessus, même si dans le domaine de l'éducation aussi, on a renié, il reste quand même déjà, il y a une base sur laquelle il faut revenir d'abord pour revenir à la gratuité totale sur la maladie et l'invalidité, sur l'éducation, parce qu'on voit ce qui se passe quand on supprime ça. On reconstitue des dynasties simplement de personnes qui vont dans la même grande école et abattre des symboles comme l'ENA, c'est s'attaquer comme aux symptômes, comme on dit en médecine. Non, il y a moyen de faire des tas de choses. Moi, j'étais acquis tout au départ. Je crois que tu étais aussi au mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, tout au début, le MOS. L'idée du revenu universel était une des idées dominantes. Après ça, j'ai passé 18 ans dans la finance et là, je me suis dit non, c'est trop dangereux. Il ne faut pas donner aux gens des chèques, il ne faut pas leur donner des sommes d'argent. Il y a tout autour un monde de prédation qui va vouloir prendre cette somme. Et quand on étudie un petit peu l'histoire de ce qui n'a pas marché, justement, dans le socialisme de la révolution sociale, comme on disait à l'époque, au 19e siècle, c'est la prédation essentiellement du système autour.
Concrètement, ce serait que les loyers augmentent, que les salaires diminuent pour contrebalancer cette arrivée de cette manne financière qu'auraient les individus avec un revenu universel.
Il y a des mécanismes qui sont quasiment automatiques. Moi, j'avais observé, j'étais aux États-Unis à l'époque, on veut relancer en 2009, on veut relancer le marché de l'immobilier. On va donner 4000 dollars aux jeunes ménages qui veulent acheter une maison et on le fait. Et le lendemain matin, le prix des maisons a augmenté de 4000 dollars automatiquement. Il y a des automatismes de ce type-là. Mais il y a aussi, parce que là, j'ai travaillé quand même, j'ai jamais travaillé dans une agence, dans une banque. J'ai toujours travaillé au siège social des banques, au cœur du réacteur. Et je vous dis, quand il y a un nouveau moyen de distribuer des chèques à des gens, il y a automatiquement, on crée dans l'ensemble, et je ne parle pas de banque qui serait véreuse ou qui serait le ver dans le fruit. Non, dans toutes les banques, on va vous créer une commission avec des juristes, trouver un moyen pour détourner au moins une partie de cette somme. C'est pas de la calomnie, je vous dis, j'ai travaillé dans le réacteur et ça se passe comme ça.
Quant à vous, Paul Ariès, vous avez une objection fondamentale à faire au revenu universel, c'est qu'en encourageant la consommation, il encouragerait une consommation qui ne serait ni orientée ni régulée, que par exemple, on achèterait des écrans plasma, des choses qui seront fondamentalement mauvaises pour la transition écologique.
Bien sûr, un revenu universel monétaire pourrait permettre d'acheter de la malbouffe. Alors je dirais que ça serait peut-être mieux que rien pour ceux qui manquent de tout, mais ça ne permettrait pas de changer de société. Cependant, je n'oppose pas de façon aussi systématique, je dirais, les propositions visant à donner à chacun de quoi vivre, même sans emploi. C'est-à-dire aussi bien le salaire socialisé de Bernard Friot, le revenu universel défendu par Hamon ou le mouvement français pour le revenu de base. Moi déjà, je suis favorable à un revenu de base couplé à un revenu maximal autorisé. C'est-à-dire, je crois qu'il va falloir construire ce qu'on pourrait appeler une sorte d'écologie des revenus avec un plancher et un plafond. Et puis, pourquoi pas accepter finalement l'idée d'un revenu universel donné de trois façons. Une partie la plus faible possible en monnaie nationale, en euros. Une partie sous forme de monnaie régionale à créer pour faciliter la relocalisation de nos activités. Une monnaie régionale fléchée, c'est-à-dire permettant d'acheter uniquement des produits à forte valeur ajoutée écologique et sociale. Et puis, bien sûr, moi, je suis plutôt favorable à ce que ce revenu universel soit au maximum démonétarisé, c'est-à-dire qu'il se traduise sous forme de droits d'accès à l'enseignement, à la santé, au logement, à l'alimentation. Et je dirais que, notamment, le laboratoire d'économie de l'Université de Londres a chiffré que la gratuité coûterait 6 fois moins cher pour satisfaire les mêmes besoins que le revenu universel monétaire.
Et vous nous dites que si la gratuité doit commencer par un socle de première nécessité, elle ne doit pas s'y limiter, elle doit pouvoir être évolutive, notamment de manière démocratique, on y reviendra. Je vous propose d'écouter une lecture du manifeste pour les produits de haute nécessité, rédigé en février 2009 par 9 intellectuels antillais, parmi lesquels Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau.
Voici ce premier panier que nous apportons à toutes les tables de négociation et à leur prolongement. Que le principe de gratuité soit posé pour tout ce qui permet un dégagement des chaînes, une amplification de l'imaginaire, une stimulation des facultés cognitives, une mise en créativité de tous, un déboulé sans maman de l'esprit. Que le principe de gratuité balise les chemins vers le livre, les contes, le théâtre, la musique, la danse, les arts visuels, l'artisanat, la culture et l'agriculture. Qu'il soit inscrit au porche des maternelles, des écoles, des lycées et collèges, des universités et de tous les lieux de connaissance et de formation. Qu'il ouvre à des usages créateurs des technologies neuves et du cyberespace. Qu'il favorise tout ce qui permet d'entrer en relation, en rencontre, en contact, en coopération, en interaction, en errance qui oriente, avec les virtualités imprévisibles du tout monde. C'est le gratuit en son principe qui devra s'installer au fondement de nos sociétés neuves et de nos solidarités imaginantes.
C'était donc le manifeste pour les produits de haute nécessité, lui par Aliette Ovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. La gratuité devrait donc non seulement assurer les principaux besoins vitaux, mais aussi permettre l'accès à la musique, au théâtre, favoriser la créativité et l'ouverture au monde, Paul Ariès.
Ah oui, c'est un merveilleux texte de mes amis poètes antillais. Alors il nous rappelle déjà la primauté de la poésie aux heures sombres. La résistance face au nazisme, mais également la situation actuelle face à l'effondrement du climat. Et cet appel pour la gratuité des produits de haute nécessité nous parle bien sûr d'alimentation, de logement, mais aussi du droit au beau. Et je crois que c'est essentiel parce que c'est une incitation à rompre avec une conception misérabiliste de la gratuité. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de construire une gratuité d'émancipation et non pas d'accompagnement du système. Et je crois que c'est une sorte de prolongement de ce qu'était la pensée d'un autre poète antillais, Aimé Césaire, qui opposait la fraternité avec la fraternitude, c'est-à-dire une fraternité obligatoire. Et je me souviens d'une soirée partagée il y a quelques années avec mes amis. Poète antillais, Patrick Chamoiseau notamment, ça avait été l'occasion de goûter quelques rhums extraordinaires, mais d'esquisser cette civilisation de la gratuité. Et pour nous tous, je dirais, le moment est à multiplier les îlots de gratuité avec l'espoir de voir apparaître des archipels et après-demain, de nouveaux continents.
Mais alors pour identifier, élaborer ces îlots de gratuité, Paul Jorion, il faut définir ce qui relève ou non des besoins fondamentaux. Comment est-ce qu'on peut se rapprocher justement de ce qui est fondamental dans une vie humaine?
Ah ouais, c'est très facile. Et là, c'est un manifeste, là aussi, qui a défini ça de la meilleure manière du monde. La gratuité pour répondre au premier objet de la société. Et que disait-on dans ce manifeste? La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister. Tous les autres sont subordonnés à celle-là. La propriété n'a été instituée ou garantie que pour la cimenter. C'est pour vivre d'abord que l'on a des propriétés. Les aliments nécessaires à l'homme sont aussi sacrés que la vie elle-même. Tout ce qui est indispensable pour la conserver est une propriété commune à la société entière. Il n'y a que l'excédent qu'il soit une propriété individuelle et qu'il soit abandonné à l'industrie des commerçants. Alors ça a été dit dans quel contexte? Vous le savez, c'est la guerre civile en France, c'est la guerre à toutes les frontières. En 1792, c'est le discours de Robespierre sur les subsistances pour s'opposer à l'accaparement. L'accaparement, c'est quoi? Les riches ont du grain, Il le cache pour faire monter le prix. On est obligé de faire quelque chose et il définit pour la première fois cette notion de l'indispensable. L'indispensable, c'est ce qui permet à chacun d'être encore en vie le lendemain matin et la propriété doit lui être subordonnée et le marché doit lui être subordonné aussi. Il faut d'abord que nous vivions. À quoi il répond-il? C'est que dans la nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a employé ce mot sacré qu'on n'employait plus du tout. On l'a employé pour définir la propriété privé. Il dit non, ce qui est sacré, et ça doit être, c'est la vie de chacun.
Mais alors ce qui est intéressant, c'est que ces besoins fondamentaux peuvent évoluer avec notre temps, et donc on va retirer petit à petit des éléments de la loi du marché. On pense notamment, aujourd'hui, on parle de la question de la connectivité, du fait d'avoir accès à Internet, qui devient un besoin pour les personnes, ne serait-ce que pour remplir des formalités administratives.
Oui, effectivement, si on oblige les gens d'avoir accès à quelque chose, ça fait partie évidemment de l'indispensable. Si on dit il faut pouvoir accéder à l'Internet, eh bien c'est l'indispensable. Et donc, dans effectivement, dans cette étude University College, ils mettent d'ailleurs cela à l'avant-plan. Il faut savoir, parce qu'on parle beaucoup de gaspillage, on nous dit souvent le privé, voilà, ça permet de faire des économies, ça fait baisser les prix, et le public, ça coûte très très cher. Pensons à la gabegie, au gaspillage invraisemblable que nous avons, par exemple, dans ce pays, mais c'est vrai pour tout l'Occident, le fait que les réseaux d'accès à l'Internet sont dupliqués, multipliés par 4, multipliés par 5. Quand vous ouvriez votre téléphone ou votre ordinateur, vous avez le choix entre, il y a 1 million de personnes à côté de vous qui ont déjà cette connexion et on, pour des raisons X ou Y, on produit ce gaspillage extraordinaire. Si on voulait accorder la gratuité dans ce domaine-là, la première chose à faire, c'est de réunir tout ça en un seul réseau et de s'arranger autour de cela. Nous ne voyons pas le gaspillage énorme. Le gaspillage, c'est pas simplement la destruction, c'est aussi la reduplication, simplement pour permettre des marges de profit à X, Y, Z et un tel.
Paul Ariès, vous faites justement de cette progressivité de la gratuité qui devrait d'abord concerner les besoins fondamentaux, puis l'ensemble des besoins de l'homme. Vous en faites l'une de vos premières lois, mais vous nous dites aussi que tout ne peut pas être gratuit et que les usages doivent être fléchés vers une direction.
Mais ce débat ancestral a été sans cesse renouvelé. Rappelez-vous la fondation de la sécurité sociale. Il s'agissait bien sûr de la sécurité sociale en matière de santé, mais aussi en matière de logement et d'alimentation. Et j'ai eu un débat pendant plusieurs années avec Daniel Mitterrand, président de la fondation France Liberté, à la fois sur la primauté du combat pour la gratuité de l'eau de base, mais également sur des raisons de terminologie. C'est-à-dire que moi je considère bien sûr que la gratuité de l'eau de base c'est essentiel, mais je crois que la gratuité des bacs à sable c'est tout aussi important. Et puis plutôt que de parler de gratuité de l'eau vitale, je préfère parler de gratuité de l'eau ou de l'énergie élémentaire. Le piège serait d'enfermer la gratuité dans le domaine de la survie. Et vous avez raison, je crois qu'on peut construire une sorte de grammaire de la gratuité avec 3 grandes règles. La première règle, c'est qu'il n'y aurait pas des biens par destination marchand et d'autres par destination gratuit. Tous les domaines de l'existence ont vocation, si les gens le souhaitent, à devenir gratuit.
À devenir gratuit, mais si les gens le décident, et ça c'est une question fondamentale, c'est que vous remettez la question démocratique au cœur de la question jadis marchande.
Et bien sûr, et on tombe à ce moment-là sur la deuxième règle. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de rendre tout gratuit, et non pas d'abord d'ailleurs pour des raisons de réalisme économique, mais parce que cette gratuité doit être au service d'un projet de civilisation. Et c'est la raison pour laquelle on avance un nouveau paradigme, qui est la gratuité du bon usage, face au renchérissement et parfois même à l'interdiction du mésusage. Alors bon usage, mésusage, ça peut sembler compliqué, en fait c'est très simple. Pourquoi est-ce qu'on paye notre eau le même prix pour faire son ménage et pour remplir sa piscine privée? Mais ce qui vaut pour l'eau devrait valoir pour l'ensemble des biens communs et je dirais l'ensemble des services publics. Et j'ajouterais qu'il n'y a pas de définition moraliste, ni même scientifique, de ce qu'est le bon usage ou le mésusage, la seule définition, elle est citoyenne. C'est ce que les gens décident. Et puis la dernière règle essentielle, c'est qu'il ne s'agit sûrement pas de rendre gratuits les produits existants. Moi, je suis pour le retour en régime municipal de la restauration scolaire. Mais c'est pas pour rendre gratuite la malbouffe. C'est pour aller vers une alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins gourmande en eau, carnée autrement, faite sur place, servir à table. C'est-à-dire que la gratuité, elle est au service d'un projet de société plus fraternel, mais également responsable sur le plan écologique.
La gratuité ne peut être mise en œuvre et être efficace que si l'intégralité du projet dans lequel elle s'insère est repensée. Paul Jorion, vous relevez néanmoins un certain nombre d'éléments, au moins théoriques, d'un point de vue économique, de certaines limites. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait l'économiste Jean-Marc Daniel dans l'émission Du Grain à Moudre sur France Culture le 24 décembre dernier.
Si on donne la gratuité de 40 litres d'eau à tout le monde, pour l'instant c'est au titre expérimental, ce que montre l'expérience et les gens sont assez naturellement commerçants, c'est que les gens qui vont avoir besoin que de 30 litres vont aller voir ceux qui ont besoin de 50 litres et ils vont leur dire les 10 litres que tu achètes au service communal, moi je te revends mes 10 litres que j'ai eu gratuitement à un prix qui est inférieur à celui que le service communal va te facturer. Et donc, assez naturellement, dès qu'on introduit une distorsion sur la formation naturelle du prix, on voit apparaître une forme de marché noir. On est le soir de Noël, le Père Noël est confronté au marché noir, c'est-à-dire il nous apporte des cadeaux le 26 décembre, enfin
on va aller les
le 26
les
décembre, vous allez les trouver sur le marché, tout un tas de gens sont en train de les revendre. Et donc le prix, ça reste quand même un élément de détermination du comportement des gens et un élément de différenciation. Et donc qu'on arbitre sur un certain nombre de choses en disant ça doit être gratuit, ça suppose quand même de bien montrer et de bien voir comment on le public ne va pas utiliser et contourner les intentions initiales de celui qui a mis la gratuité.
On parlait de la bonne conception de la gratuité. Paul Jorion, l'un des effets pervers d'une gratuité mal pensée serait de faire émerger un marché noir de produits gratuits revendus sous le manteau et qui viendrait contrecarrer ce principe même de gratuité.
Oui, oui. Oui, c'est l'argument des gens qui sont contre. Et en fait, au lieu de dire je suis contre, ils inventent des raisonnements de ce type-là. On voit ça dans de nombreux domaines. Au lieu de dire voilà, vous pouvez savoir. Vous entendez, à propos de n'importe quelle bonne idée, il y a quelqu'un qui va vous dire « Oui, mais il faudrait qu'on applique ça dans le monde entier et c'est pas possible et donc il faut pas le faire, etc. » On a oublié l'inverse, et l'inverse, c'est le bon exemple. Au 19e siècle, on peut critiquer le 19e siècle, mais au moins on n'avait pas ce type d'argument. On nous disait, si on donne le bon exemple, les gens vont nous suivre. Bien entendu, il y a des choses, bien entendu, si on mettait en place la gratuité, je dirais entièrement de l'habillement et de la nourriture, de l'alimentation. Bien entendu, il y aurait des gens loueraient un grenier supplémentaire pour essayer d'accaparer les choses. Il y a des gens qui essaieraient d'organiser un trafic aux frontières. Mais regardez le chèque repas. Bon, le chèque repas, c'est une manière de d'assurer de l'alimentation. Aux États-Unis, c'est le food stamps, etc. J'ai vu ce système fonctionner aux États-Unis pendant les 18 ans où j'habitais là. Je n'ai jamais vu ce système détourné. Il suffit d'un tout petit peu de surveillance et d'organiser les choses, bien entendu. Les food stamps, vous pouvez pas acheter d'alcool avec ça. Bon, c'est très bien, c'est pas très très compliqué. Non, ce type d'argument, c'est toujours la même chose. C'est je ne suis pas d'accord, mais je n'ose pas vous dire que je suis pas d'accord, alors je vais vous inventer quelque chose.
Selling time, selling happiness, selling power, selling water, selling kisses, selling doubts, selling certainty, selling comfort, selling emotions, selling youth, selling motion, selling lies, selling life, selling entertainment, selling silence, selling games, selling strategic marketing, selling strategic marketing. If you don't buy, you die. 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 Selling dreams, selling beliefs by numbers, selling security, selling complexity, selling simplicity, selling intimacy, selling identity, selling love, selling what you call beauty, selling collateral damage, selling eternity, selling injustice, selling human history, selling trash, light, darkness, selling past, present, future. If you don't buy, you die. If you don't buy, you die. If you don't buy, you die.
L'eau, tout le monde le sait, c'est un des quatre éléments constitutifs de la vie. C'est la vie. Et nous avons très vite compris que le système dans lequel nous vivions actuellement imposait une marchandisation de ces éléments vitaux de la vie qui était totalement aberrant à l'esprit. On ne peut pas vendre la vie. Donc, au cours des forums sociaux mondiaux, dans les ateliers où nous travaillons sur l'eau, en réunissant toutes les compétences, que ce soit des économistes, des mouvements de pensée, des associations, tout simplement des gens qui, sur le terrain localement, traitaient ces problèmes de l'eau, on est arrivé à une déclaration commune, venant aussi bien de l'Inde que de l'Afrique, que de l'Amérique latine ou ailleurs, que l'eau ne pouvait pas être une marchandise. Et nous avons constitué défini une charte avec trois éléments fondamentaux qui sont l'objectif pour la société de demain. C'est-à-dire que l'eau n'est pas une marchandise, elle doit être rendue à la terre en bon état pour les générations à venir, et elle doit être considérée comme un droit.
Danielle Mitterrand, présidente de la Fondation France Liberté, énonçait donc en 2010 les trois principes constitutifs de la gratuité de l'eau. L'eau n'est pas une marchandise, l'eau doit être rendue à la terre en bon état et doit être considérée comme un droit. C'est sur ces bases que se sont construites les différentes expérimentations visant à rendre l'eau gratuite, Paul Ariès.
Oui, et Danielle Mitterrand avait parfaitement raison, car je dirais le débat sur les biens communs est revenu d'actualité aussi bien en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, autour de la question de l'eau. Et je noterai d'ailleurs que les pays du Sud sont beaucoup plus en avance en matière de gratuité de l'eau élémentaire que nous. Mais cette gratuité est d'abord fondée sur l'échec du système marchand. C'est-à-dire l'incapacité à garantir le droit effectif à l'eau. Mais je dirais, cette revendication de la gratuité est aussi fondée sur l'échec écologique, puisqu'on sait que le taux de perte est de 36% à 60% dans les canalisations. Alors, est-ce que l'eau gratuite va conduire à plus de gaspillage? Eh bien non, toutes les expériences montrent l'inverse. Tout simplement déjà parce que les gens font attention pour ne pas accéder aux tranches surfacturées. Mais aussi parce que lorsqu'on instaure cette gratuité de l'eau élémentaire, on développe des politiques d'accompagnement. Les villes vont avoir du personnel municipal dédié pour expliquer comment changer les joints, comment éviter le gaspillage. Et je dirais que, d'une manière générale d'ailleurs, la gratuité ne développe pas le gaspillage, bien au contraire. Prenons l'exemple de l'alimentation. L'alimentation mondiale est gratuite et payante, que je sache. Or, pourtant, plus du tiers de ce qui est produit mondialement est gaspillé.
Mais là où le cas de l'eau est intéressant, c'est que non seulement c'est l'un des cas d'expérimentation les plus développés dans le monde, mais ce que vous nous rappelez, encore une fois, c'est que l'eau a longtemps été gratuite.
Oui, l'eau a été gratuite, en fait, de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Et c'est autour du slogan « eau gratuite à tous les étages », c'est-à-dire au nom de la modernité, qu'on a rendu ce système payant. Mais là aussi, il ne s'agit pas simplement de rendre l'eau existante gratuite. Il faut repenser l'eau en assurant, par exemple, la primauté à l'eau locale, en ayant aussi comme objectif de remettre en cause sur le plan juridique le fameux principe actuel selon lequel l'eau ne devrait être utilisée qu'une fois. Il faut s'inspirer de ce qui marche à l'étranger lorsqu'on va séparer l'eau grise des toilettes avec les autres eaux usagées, ce qui permet de retraiter à plus faible coût, et finalement, je dirais que le bilan humain, le bilan écologique est tout à fait positif.
Mais alors concrètement, comment est-ce qu'on finance ce passage à une gratuité, fût-elle dans les premières tranches? Comment est-ce qu'on finance ce changement?
Alors je dirais qu'il y a déjà un autofinancement, puisque généralement il y a trois tranches différentes. Il y a tout d'abord une partie de l'eau qui est gratuite, correspondant aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. 30-40 mètres cubes d'eau par an et gratuité des abonnements pour les résidences principales. Et puis au-dessus, il y a ce qu'on appelle de l'eau responsable, qui est vendue, mais à un prix plus cher. Et après, il y a une surfacturation pour les gros consommateurs.
Vous nous donnez le même exemple d'ailleurs pour l'énergie. Vous nous dites que, comme pour l'eau, on pourrait imaginer que l'énergie serait au début gratuite et qu'ensuite, pour les gros consommateurs d'énergie, on ferait surfacturer, ce qui permettrait de rentrer dans ces frais d'une certaine manière.
Mais bien sûr, il y a des expériences d'ailleurs à l'étranger, y compris en Californie. y compris en Angleterre. Mais je dirais que ce principe de la gratuité du bon usage et du renchérissement du mésusage, on peut l'appliquer presque à tout, y compris au téléchargement sur Internet. Je dirais une loi comme la loi Adopi qui rend délinquante presque toute une génération, par définition, c'est une mauvaise loi. Donc il faut à la fois permettre le téléchargement gratuit, mais aussi garantir le financement de la création, ce qu'on aujourd'hui remplit très très mal. Et donc il faut donner une certaine quantité de bandes passantes correspondant globalement au téléchargement domestique et surenchérir pour les gros consommateurs, c'est-à-dire les entreprises et les institutions, comme les universités.
D'autant que derrière l'accès à Internet, il y a cette idée d'accès à la connaissance. Paul Jorion, vous nous rappelez que la connaissance est un bien public pur, à savoir qu'il est très facile de le rendre gratuit, puisqu'il est par définition gratuit. Ce qui est payant, c'est l'accès.
Oui, nous avons, quand on parle de globalisation, mondialisation, la première étape, la première étape, c'est sans doute la lex mercatoria, c'est-à-dire quand les marchands devaient bien régler leurs différends et qu'ils appartenaient à des nations différentes. Mais la deuxième grande tentative, c'est bien sûr la production de la science, c'est-à-dire un discours de connaissance selon des critères qui sont les mêmes. Les critères sont pas différents pour publier un article considéré comme scientifique en Chine, aux États-Unis, etc. Oui, il y a la connaissance, et c'est intéressant d'en parler ces jours-ci, puisque il y a un retour, je dirais, il y a une mise en question de ce discours commun. Il y a la production de ce que j'appelle des vérités locales, qu'on appelle aussi des fake news, c'est-à-dire la possibilité pour des petits groupes de se mettre d'accord sur une espèce de connaissance alternative, comme par exemple deux personnes qui décideraient qu'ils seront d'accord sur le fait que la Terre est plate, et qui à partir de là considéraient comme une vérité que c'est de cette manière-là. Qu'est-ce que ça révèle, ça ? Ça révèle la polarisation de nos sociétés. Le fait qu'un dialogue cesse d'être instauré entre ce qu'on appelle les élites et le peuple. Parfois, le terme parfois utilisé de manière péjorative quand on parle de populisme. Ce que ça montre, ce sont les failles qui sont en train de s'installer dans une société en raison des différenciations sociales, des disparités sociales qui sont beaucoup trop grandes. Dans l'étude sur la gratuité faite par le University College en Angleterre, on nous montrait la chose. On nous dit souvent, oui, mais si on redistribuait la richesse des riches, ce serait des miettes pour l'ensemble de la population. Non, pas du tout, parce que les riches sont tellement riches, vous voyez des dons extraordinaires de 200 millions ici et de 100 millions là. Non, si on redistribuait la richesse des plus riches, ça rendrait les gens beaucoup moins pauvres qu'ils ne sont maintenant. Dans l'étude de University College, si on ponctionne parmi le décile supérieur, les 10% les plus riches de la population, ou en Grande-Bretagne, si on leur prend 1% de leur patrimoine ou de leurs revenus, ça fait augmenter dans le décile le plus bas, ça fait augmenter les revenus des personnes de 30%. Ce n'est pas vrai que les riches, que si on distribuait la richesse des riches, ce serait des miettes pour la population. De même dans les entreprises, quand on dit oui mais le bonus de la direction c'est pas très très grave, si ce sont des sommes faramineuses par rapport à ce qui est distribué en salaire ou au rang subalterne.
En matière de financement, Paul Ariès, vous prenez un exemple qui est tout à fait frappant. On parlait à l'instant d'accès à la connaissance. Vous nous rappelez que les bibliothèques ont été gratuites aussi pendant longtemps et que l'instauration du fait qu'elles soient payantes n'était pas forcément intéressant économiquement pour elles.
Eh bien non, parce que effectivement les bibliothèques ont été gratuites globalement jusque dans les années 50 et surtout au moment où elles sont devenues des médiathèques. C'est-à-dire qu'on a utilisé le prétexte de l'introduction des DVD et des CD, la modernisation encore effectivement, pour rendre les systèmes payants. Les bibliothèques restent gratuites dans les pays anglo-saxons. Je dirais l'exemple des bibliothèques est extraordinaire parce que lorsqu'une médiathèque est payante, chacun de nous se conduit comme un bon petit consommateur, c'est-à-dire qu'on en veut pour notre argent. Si j'ai le droit à emprunter 10 ouvrages, je prends le maximum, quitte à ne pas tout lire. Lorsque la même médiathèque devient gratuite, ce que l'on constate, c'est presque un doublement du nombre d'abonnés, mais ça c'est attendu. Mais surtout, c'est une diminution de 30% des emprunts. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous échappons à la logique de la consommation et nous devenons davantage des usagers maîtres de nos ouvrages. de nos usages.
Mais ce qui est formidable sur la question du financement et qui est incroyable, c'est que vous nous expliquez que le fait de mettre en place des personnes qui doivent travailler, qui doivent contrôler le fait que nous rendons bien nos livres, etc. Nous verrons que c'est la même chose dans les transports en commun. Cela coûte extrêmement cher et relativement à ce que rapporte effectivement le fait de faire payer les ouvrages, la différence est quasiment tout à fait minime.
Mais oui, les recettes des abonnements, c'est moins de 5% des ressources des bibliothèques. Et le coût de gestion des abonnements, c'est 60% des sommes perçues. Et ce que on sait, c'est que compte tenu de l'augmentation de la fréquentation qu'engendre la gratuité, le coût d'un prêt gratuit est de 5 euros, alors que le coût d'un prêt payant est de 6 euros. Donc on est gagnant sur tous les plans, et on est gagnant surtout parce qu'on va aussi profiter de la gratuité pour repenser les bibliothèques, pour en faire des lieux de vie, pour permettre aux gens de passer simplement consulter un ouvrage, pour venir aussi se restaurer à midi. Et ça doit être une gratuité inconditionnelle, c'est-à-dire pas seulement ouverte aux gens qui payent les impôts sur place, mais également aux gens qui travaillent dans les villes.
Cette question des coûts de la structure d'encadrement et de contrôle, on la retrouve aussi sur la question des transports. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait Magali Giovannangeli, présidente de l'agglomération d'Aubagne, au moment du passage à la gratuité des transports en commun, interrogée dans Les Pieds sur Terre le 15 janvier 2017 sur France Culture.
Moi, je me souviens avoir vu sur les culs de bus de la RTM, de la Régie de Transport Marseillais, la fraude coûte 17 millions d'euros par an. Je me suis dit, c'est quand même fou. Qu'est-ce qu'on ferait des économies si les transports étaient gratuits? Entre le premier jour où c'était gratuit et où chaque voyageur coûtait à la collectivité 4 euros, et avec l'augmentation de la fréquentation, plus 175%, où chaque voyageur ne coûtait à la collectivité plus que 2 euros, je trouve qu'il y a quelque chose d'économiquement intéressant à observer, même si on n'est évidemment pas dans le champ du profit ou d'une économie qui rapporte, mais bien d'une économie qui montre qu'il y a de l'utilité à la mesure prise. Moi, j'avais connaissance d'exemples extraordinaires de jeunes qui, plutôt que de rester au pied de leur immeuble dans les cités, sont partis voir les villes et villages du territoire. Je trouve que désenclaver une cité et permettre la libre circulation. Plus personne ne parle plus jamais de ça, parce que chaque fois qu'on prend une mesure qui ouvre des droits, on a l'impression qu'on lèse la terre entière, mais c'est pas vrai. Quand on ouvre un droit pour quelqu'un, on le ferme pour personne d'autre.
Paul Jorion, la gratuité des transports serait donc non seulement financièrement tout à fait atteignable avec la participation des entreprises et la hausse de la participation, mais elle serait également souhaitable socialement comme une manière de désenclaver, d'ouvrir par la gratuité.
Oui, surtout, il y a ce qu'on appelle des externalités positives. C'est meilleur pour l'environnement, ça diminue la pollution. Le problème, c'est qu'on demande l'opinion sur ces questions de transport en commun à des gens qui ne les utilisent jamais. Et ça fait rire Paul. Et c'est ça le problème, je dirais, tout à fait général. C'est que maintenant, il y a dans cette séparation des connexions qu'il y a entre plusieurs parties de la population et qui s'est bien manifestée de manière, je dirais, scandaleuse. Dans la manière dont vous vous souvenez sans doute, c'était assez récent, que les rédacteurs du journal Le Monde ont été indignés par les réactions de leurs lecteurs devant la description de la vie d'un couple, d'un ménage, de personnes qui s'affirmaient gilets jaunes. Les gens ne savent pas, les gens qui font les rapports et tout ça, je les connais, ce sont des gens qui ne savent plus comment ça marche dans une population. Ce sont des gens qui ne sont pas sensibles au fait que quelqu'un perd son emploi doit en retrouver un, et que c'est pas facile dans un environnement où l'emploi disparaît parce que la mécanisation avance. Quand quelqu'un de connu nous dit « Vous voulez du boulot ?» et il suffit de traverser la rue, ça nous évoque cette légende, mais qui est une légende très parlante sur Marie-Antoinette et la brioche. La déconnexion est totale. Quand on nous dit, par exemple, maintenant, vous savez sans doute, j'ai proposé, ça a été repris par Benoît Hamon dans son programme, ce qu'on appelle maintenant la taxe robot, moi je l'appelais taxe sismondie. Les entreprises vous disent à propos de ça, qui est le moyen, sans doute le meilleur moyen, à mon sens, de financer justement une transition vers la gratuité, que les entreprises vous disent « Mais c'est scandaleux, on va taxer les machines, comment voulez-vous qu'on taxe le marteau, etc. » Ces gens-là ne manifestaient pas la même indignation quand il y avait un ouvrier, quand il y avait un salarié qui payait des impôts à la sortie sur ces sommes qui leur étaient distribuées. Ça ne les choquait pas, mais qu'on puisse taxer un marteau, oui, pour le travail. travail qu'il fait. Et surtout, c'est pas tellement les marteaux, bien entendu, maintenant, ce sont les robots. Oui, il y a une richesse, et ça, pourquoi j'ai appelé ça Texis Mundi, parce que justement, il avait souligné, la mécanisation, c'est un bien pour l'humanité dans son ensemble. Et il n'y a pas de raison que la personne qui perd son emploi en raison de la mécanisation soit spoliée de cela. Il disait, lui, il faudrait qu'il y ait une rente à vie qui lui soit distribuée. Il parlait, bien entendu, dans le cadre où on parlait des ludites. Et je vous rappelle que les ludites, ça a quand même été quelque chose de sérieux, non pas de la destruction des machines, mais du fait qu'on a pendu 17 personnes pour avoir été impliquées dans une destruction de matériel, dans un climat où, effectivement, rien n'était prévu pour les gens qui allaient être remplacés par le métier jacquard.
Paul Ariès, sur cette question des transports, c'est donc encore une fois simplement une question de volonté politique. Vous nous dites que c'est d'autant plus réalisable si on prend l'ensemble des coûts indirects liés au transport.
Ah bah oui, la gratuité des transports aurait un coût bien moindre que la seule pollution. La pollution en France, c'est 101 milliards d'euros par an. Et la gratuité des transports aura un coût bien moins que les seuls embouteillages. 17 milliards par an, et les experts estiment que ça sera 22 milliards en 2030. Les embouteillages, c'est un coût de 934 euros par personne et par an. La gratuité, ça coûterait seulement de 300 à 400 euros. Et je dirais toute l'intelligence politique de Magali et de son équipe, lorsqu'ils ont mis la gratuité des transports en place à Aubagne, c'est d'avoir, je dirais, avoir choisi d'afficher cette gratuité en reprenant le slogan de l'Observatoire international et en marquant en très gros sur les bus « Liberté ». Égalité, gratuité. Alors qu'aujourd'hui, on le voit très bien avec les tarifs sociaux, c'est plutôt, je dirais, au mieux une gratuité honteuse. Mais ça change totalement la philosophie du projet.
Mais même financièrement, comme on peut, ça a été le cas par exemple à Châteauroux, mais ça pourrait être le cas dans d'autres villes, la contribution actuelle qui est versée par les entreprises pour financer les transports pourrait tout à fait être basculée vers un financement de la gratuité des transports. C'est d'autant plus intéressant que vous nous dites que là encore, les recettes commerciales, c'est-à-dire le fait de vendre un ticket de métro, ne représentent qu'une faible part du financement des transports.
Oui, c'est-à-dire que les usagers payent aujourd'hui entre 10 et 25%. Et en fait, ils payent beaucoup moins compte tenu du coût induit par la vente des tickets, par les portiques, par les frais de gestion. Et effectivement, très souvent, on fait payer les gens pour pouvoir contrôler qu'ils ont payé. Et puis je crois qu'on ne peut pas en même temps dire qu'il y a le feu à la planète et ne pas prendre des mesures drastiques pour organiser tout simplement le transfert de l'utilisation de la voiture au système de transport collectif.
En revanche, il semblerait qu'il y ait un vrai problème ou une vraie limite. On voit qu'à Paris, à la mairie de Paris, la maire avait envisagé pendant un temps d'étendre la gratuité à l'ensemble des transports et à l'ensemble des personnes usagères de ces transports. Mais elle a fini par reculer et renoncer, notamment à cause des questions de saturation du réseau.
Alors, Hidalgo n'était sans doute pas la personne la mieux placée pour mettre en place ce système de gratuité dans les transports. Elle y a très longtemps été hostile en considérant que c'était peut-être bon pour les petites et les moyennes villes, mais pas pour les grandes villes. Alors qu'existent des exemples totalement au contraire, notamment des capitales dans l'Europe de l'Est qui montrent que c'est réalisable. Et oui, effectivement.
En Chine, Chengdu, une ville de 10 millions d'habitants.
Exactement.
Pour autant, est-ce que les usagers de Chengdu utilisent autant les transports en commun qu'à Paris? C'est peut-être ça la question, ce n'est pas tant le nombre de personnes que le nombre de personnes qui utilisent
mais
effectivement les transports.
Mais la question de la saturation, je dirais, ne me gêne pas. Au contraire, ça prouve que la gratuité correspond à un besoin social et qu'il va falloir des investissements et qu'il va falloir peut-être procéder effectivement par tranches, c'est-à-dire dans certains secteurs du réseau, etc. Mais on ne peut pas dire que l'avenir, ce serait au covoiturage et en fait à la voiture automatique Google. C'est-à-dire que c'est vraiment un choix de société et je dirais que c'est tout simplement aussi la préservation de la qualité de l'air quand on sait aujourd'hui que dans une ville comme Lyon, la moitié des enfants respire tous les jours un air qui est de mauvaise qualité. Donc il y a urgence à tout simplement réorienter les modalités de déplacement.
Mais le fait qu'il y ait eu un retrait de la maire de Paris, Anne Hidalgo, c'est peut-être en fait une illustration de votre fameuse troisième règle que l'on connaît très bien maintenant, qui est que l'on ne peut pas mettre en place la gratuité sans changer le modèle dans lequel il s'insère. En l'espèce, on a pris les transports parisiens sans essayer de repenser les usages. Vous disiez notamment le fait que tout le monde n'aurait pas forcément accès à la gratuité. En même temps, le fait de faire par des tranches, il faut repenser l'intégralité du système si on veut passer par la gratuité.
Mais bien sûr, c'est que la gratuité, c'est tout sauf le fait de simplement supprimer la billetterie. C'est vraiment l'occasion de repenser totalement l'offre. Et je dirais que dans l'ouvrage « Gratuité versus capitalisme », on a plusieurs pages où on détaille ce qu'ont fait les villes, parce qu'aujourd'hui, on a un sacré retour sur expérience. Il y a plus d'une trentaine de villes, rien qu'en France, qui pratiquent avec succès cette gratuité des transports en commun.
Paul Jorion.
Oui, non, sur cette question des transports en commun, qu'il y aura engorgement ou quoi que ce soit, si on définissait comme priorité... Par exemple, nous sommes à Paris avec la fenêtre ouverte. Si on mettait comme priorité la qualité de l'air, si on imposait comme règle qu'il ne soit pas indiqué sur le périphérique conditions atmosphériques anormales parce qu'il fait beau et que dès qu'il fait beau, l'air devient irrespirable. Si on mettait l'accès gratuit à un air, parce que ça va nous arriver aussi, c'est arrivé avec l'eau, qu'on devra payer pour l'air autour de nous, mais qu'on nous donne la garantie d'un air respirable, parce qu'il y a des enfants dans les villes, moi j'en ai vu dans la rue tout à l'heure à Paris, si on mettait ça comme condition et qu'on repense le problème des transports en commun par rapport à ça, en mettant ça comme contrainte, le problème se poserait tout à fait autrement et on se débarrasserait pour commencer du périphérique, même s'il fallait effectivement, comme tu le dis, s'il fallait mettre à la place autre chose en matière de transport. Mais puisque je mentionne l'air, comme on a mentionné l'eau tout à l'heure, je voulais ajouter aussi, il faudrait également que l'accès soit gratuit à l'ensemble des ressources minières. Et ça, on en est bien entendu très très loin, parce que les ressources minières, le pétrole pour commencer, mais tout le reste, qu'il s'agisse des terres rares ou de tous les restes, c'est un bien commun de l'humanité, il faut que ça revienne aussi dans le commun.
Paul Ariès, peut-être un dernier mot, nous arrivons au terme de cette émission. On se pose la question, après avoir entendu toutes ces choses passionnantes sur ces hypothèses de changement, on se pose la question de l'échelon pertinent. On se pose notamment la question de se demander si le fait de passer à une forme de gratuité qui serait gérée par la collectivité n'aurait pas nécessairement la création d'une espèce d'énormité bureaucratique qui ne fonctionnerait pas. Est-ce que la réalité et la nécessité, c'est la question du local, peut-être aidé par l'État ?
Pour moi, le bon échelon pour commencer à ce glissement vers la société de la gratuité, ce sont les territoires. Et le premier grand enjeu, ça va être les élections de 2020. Moi, j'appelle vraiment à la constitution de listes citoyennes pour mettre la gratuité au cœur des rêves, au cœur des projets et des actions. Parce que très franchement, on peut reprocher tout ce qu'on veut à la société d'hyperconsommation. Il faut reconnaître que cette société nous fait jouir, parce qu'il y a de la jouissance à consommer toujours plus. Alors d'accord, c'est une mauvaise jouissance, c'est une jouissance d'avoir, c'est une jouissance d'emprise. Mais tant qu'on n'aura pas une autre conception du bonheur, de la jouissance, à lui opposer, et j'ajouterai encore plus jouissive, on n'y arrivera pas. Et la seule autre forme de jouissance qu'on puisse opposer à la jouissance d'être, à la jouissance d'avoir, c'est la jouissance d'être. C'est se souvenir que l'être humain est d'abord un être social. Et la gratuité, c'est la fabrique de l'humain avant tout.
This love be the fading sky. We could drift all night into the new sunrise. Pass me a drink or maybe two, one for me and one for you, and we'll be free, free. Changing tide, we better drop them sails and get inside. When will the weather ever let us go? I guess we'll have to wait until the trade winds blow.
Merci encore à Paul Ariès et Paul Jorion d'avoir été parmi nous pour évoquer les intérêts de la gratuité. Je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs. Paul Jorion, vous êtes l'auteur de « Vers un nouveau monde » publié aux éditions Renaissance du livre. Paul Ariès, vous avez écrit « Gratuité versus capitalisme » paru chez Larousse. Demain, nous quittons les rives de la gratuité pour nous diriger vers une institution cette année centenaire, l'Organisation internationale du travail et l'avenir de l'emploi. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission et celle que vous voudrez en podcast ou sur le site de France Culture, disponible maintenant et pour l'éternité. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « Entendez-vous l'écho ?».
just take one last look around.
Yeah, and every place feels like a familiar town.